Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur les traces de Jean-Claude Bauer. Nous sommes Abdourahouf, Alfredo, Laurane, Aya, Mounib et Benjamin. Élèves de 3e 3, nous accueillons aujourd'hui au collège Jean Moulin de Villefranche Jean-Claude Bauer qui a publié il y a quelques mois l'ouvrage Klaus Barbie, la route du rat. Bonjour Monsieur Bauer, nous avons quelques questions à vous poser pour compléter l'exposition que nous avons visitée ce matin. Des questions qui porteront sur votre métier, votre BD et le procès Klaus Barbie. Nous passons donc la parole aux élèves.
Merci, bonjour, bonjour à vous aussi. Et puis, merci de m'inviter à cette première web radio dans ce collège Jean Moulin, je crois, de Villeneuve. Sur-Saône. Non, Villefranche, pardon, excusez-moi. Vous voyez, ça commence bien. Hein. Villefranche-sur-Saône. Alors, allez-y, posez les questions.
Combien de BD avez-vous fait depuis que vous avez commencé le métier de dessinateur ?
Alors, j'ai fait plusieurs ouvrages, pas que de la bande dessinée, mais au niveau de la bande dessinée, j'en suis à... Alors, attendez, je compte en même temps. 5, 6, pas plus. Vous voulez que je vous les cite ?
Si vous voulez.
Bon, alors, la première bande dessinée que j'ai faite, la plus récente que j'ai faite, sous forme d'album, hein, c'était Planète Randonneur, qui racontait l'histoire d'un guide randonneur et qui promenait un peu dans le même esprit que le film Les Randonneurs. Les seconds albums, il y en a eu deux. Il y a deux tomes qui s'appelaient Spyware. Et Otaku, qui racontait l'histoire d'un auteur qui s'était fait voler, qui a vu publier un livre qu'il n'avait pas écrit en fait. Et en fait, l'histoire raconte un peu son enquête personnelle pour essayer de trouver la personne qui s'était substituée à lui et qui essayait. Donc, ensuite, j'ai fait deux tomes de la biographie de Johnny Hallyday. Et puis ensuite, Klaus Barbie, la route du rat. C'est déjà pas mal.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier et pas un autre ?
Parce que je ne sais pas faire autre chose. J'ai toujours dessiné. Je suis un piètre bricoleur, donc je ne pouvais pas travailler dans le métier du bâtiment ou autre chose. Moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient restaurateurs. Et moi, je suis un peu la brebis galeuse de la famille, puisque je n'ai pas continué dans cette voie-là. Mais je ne suis pas le seul, parce que j'ai une tante qui était journaliste. Donc, ça me sauve un peu. Voilà.
Qu'avez-vous fait comme étude ?
Alors, bon, je ne vais pas dévoiler tout, mais je n'ai pas été un très très bon élève. J'étais même un fait cancre, mais bon, ça ne m'a pas empêché de réussir. Et j'ai eu cette chance, parce qu'à l'époque où je suivais les études, j'ai pas passé mon bac, je n'ai pas passé mon brevet. Donc vous voyez quand même, j'ai un certificat d'études, c'est tout. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir continuer une filière grâce à un prof de maths que je remercierai jamais assez et qui a trouvé que je m'ennuyais énormément à l'école et qui a prévenu mon père en disant, a alerté mon père en disant, écoutez, votre fils, c'est pas possible, quoi, on peut pas le garder et il faut lui trouver une voie dans laquelle il serait bien. Et comme mon père savait que j'avais des velléités de dessin, de dessinateur, a trouvé une école qui m'a permis d'entrer dans la voie d'art graphique. C'est une école des beaux-arts, départementale. Et j'ai pas honte de dire, je suis rentré dans cette école et là, je me suis vraiment épanoui. Et puis, j'ai pu rentrer ensuite à l'école des beaux-arts de Lille. Et j'ai fait 4 ans d'études et j'en suis sorti à 20 ans. Et j'étais un des plus jeunes élèves de l'école des beaux-arts de Lille. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas très bien travaillé en classe qu'on ne réussit pas dans la vie. Bon, moi je considère que j'ai réussi une partie de ma vie en faisant le métier que j'aimais par-dessus tout.
Est-ce que des membres de votre famille ont participé à la guerre ?
Alors oui, le frère de mon père s'est engagé. Il avait 18 ans, il a décidé de s'engager dans la guerre. Il a fait le débarquement de Provence, Non, il a fait Monte Cassino, il a fait le débarquement par l'Italie. Il a été blessé dans la bataille de Monte Cassino. Il a été soigné, on l'a rapatrié, puis il a redébarqué ensuite en Provence et il est remonté et il s'est fait tuer dans la région de Franche-Comté. Il est tombé dans une embuscade et il est mort à la guerre.
Est-ce qu'une personne de votre famille a été en lien avec Klaus Barbie ?
Jamais. Jamais, jamais. Non, personne. Aucun lien.
Comment est née l'idée de cette BD sur Klaus Barbie ?
Alors, l'idée est venue à la suite d'une série d'événements. J'habitais à l'époque le Maine-et-Loire et les archives départementales du Maine-et-Loire avaient vu dans un article qui était paru dans Ouest France que j'avais suivi ce fameux procès. Et en fait, pour clore une exposition qui avait eu lieu dans aux archives départementales qui traitait de la justice dans la région, ils voulaient clore cette exposition en parlant du procès Barbie, et ils avaient invité pour ça Jean-Olivier Vioux, qui était à l'époque du procès Barbie le substitut du procureur Truche et l'organisateur principal de ce procès, lui donner une conférence et moi j'exposais mes dessins. Et on s'est retrouvés, on s'était perdu de vue depuis 30 ans, on s'est retrouvés et on a beaucoup échangé. Et Jean-Olivier Vioux m'a dit « Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas laisser vos dessins dans les cartons à dessin. Il faut que ces dessins servent pour un travail de mémoire. » Et il m'a impulsé l'idée de faire un livre sur la question. Mais des livres sur Barbie, il y en a beaucoup. Beaucoup ont été écrits. Et il fallait que moi je sorte un peu du champ d'une manière assez originale. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'option de la bande dessinée qui reste de toute façon un très très bon vecteur d'information.
Quel âge avez-vous lors du procès ?
Alors, je vais dévoiler tout là. J'avais 34 ans quand j'ai suivi ce procès. J'étais pas nécessairement très intéressé par tous les sujets de la guerre et tout ça, mais c'est vrai que le fait de dessiner des portraits des uns et des autres m'intéressait. Et puis bon, ce côté un peu, allez, je dirais voyeurisme qu'on a tous de suivre un procès, d'écouter un peu et de comprendre pourquoi surtout les gens ont commis des crimes m'intéressait. Voilà, mais bon, sans plus, quoi, je veux dire. Et puis, j'avais suivi un premier procès, qui était celui de Georges Ibrahim Abdallah, qui était un terroriste libanais, donc au tribunal de Paris, à la cour d'assises. Et donc, c'est là où j'ai fait mon galop d'essai, c'est là où j'ai un peu tâtonné pour savoir comment j'allais m'y prendre, techniquement, surtout, et puis voir comment je devais dessiner ce que je voyais, ce que j'entendais. Donc, le journaliste de l'époque qui était le chroniqueur d'Antenne 2 et chroniqueur judiciaire d'Antenne 2 qui s'appelait Paul Lefebvre, qui s'appelle toujours, du reste, il est toujours de ce monde, m'a embauché pour suivre le procès Barbie. Et il a trouvé que ce que j'avais fait était intéressant et c'est ce qu'il cherchait, de toute façon. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière avec ce procès extrêmement retentissant. Émouvant et qui m'a complètement transformé sur le plan moral, sur le plan humain surtout. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir changé complètement à ce moment-là, après ce procès en tout cas.
Qu'avez-vous ressenti lors des témoignages ?
Oula, beaucoup d'émotions. Même maintenant, quand on en parle... C'est des moments très particuliers, émouvants et inimaginables. Et on ne peut pas penser un seul instant que des choses comme ça sont arrivées. Je veux dire. Et après, donc, ça nécessite beaucoup de se renseigner sur ce qui s'est passé pendant cette guerre et se renseigner aussi sur ce qu'étaient les nazis en règle générale, quoi. Et de voir que tous les meurtres qu'ils ont commis... sont odieux, mais là, vraiment, les témoignages étaient très, très forts et très, très, très émouvants.
Quel témoignage vous a le plus marqué ?
Il y en a eu plusieurs. Il y a eu celui de Simone Lagrange, il y a eu celui de Sabine Zlatin, qui était la directrice d'Izieux, de la maison d'Izieux. Il y a eu le témoignage de Lise Lesèvre, qui était une résistante et qui a refusé de parler, qui a sacrifié à la fois... Enfin, sacrifié, c'était pas sa volonté, évidemment, mais Barbie, pour essayer de la faire parler au maximum, avait arrêté et son mari et son fils. Son fils a été fusillé à l'âge de 16 ans et son mari a été déporté à Auschwitz, où il est mort.
Aviez-vous un bon angle pour dessiner le procès ?
Un quoi ?
Un bon angle.
Un bon angle. Ah ben, on était très bien placés. On avait un, enfin nous les dessinateurs, on avait une place absolument privilégiée qui était d'être dans le prétoire même, c'est-à-dire que là où se passe tout, là où on entend l'histoire, on entend les histoires racontées par les uns et les autres, les témoins qui sont à la barre, les magistrats qui sont là, les avocats et d'un bord et de l'autre. Et puis voilà. Et puis l'accusé quand il est présent.
Comment avez-vous réalisé cette BD ?
Comment j'ai réalisé cette BD ? Ben, après avoir été impulsé par ce que je vous disais, par Monsieur View, j'ai eu cette idée de faire une bande dessinée, parce que j'avais déjà par le passé travaillé sur des bandes dessinées institutionnelles. J'avais traité des accidents du travail et je me rendais compte qu'en fait c'était un excellent moyen de faire passer des informations. Là je parle de bande dessinée institutionnelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans un organisme de prévention des risques professionnels et pour faire passer des messages de prévention. Et donc je me suis dit que ce soit des messages de prévention ou de l'information pure comme la vie d'un nazi et tout ça, c'est une manière originale. Et alors, on peut dire que c'est un travail de vulgarisation, entre guillemets, hein, mais ce n'est pas un boulot d'historien. Je ne suis pas un historien, le scénariste non plus. Donc, on peut commettre quelques erreurs, mais en tout cas, sur le fond, c'est de faire passer ce message, de dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment s'est conduit cet individu, et puis voilà ce que les gens ont ressenti pendant cette période où ils ont été maltraités par Barbie. Enfin, ça, c'était important de le faire passer comme ça, de cette façon. Voilà.
Nous accueillons maintenant Abdourahouf, Alfredo, Laurane, Aya et Mounib qui vont nous proposer leur chronique du jour. De quoi vous parlerez-nous ?
Bauer, nous avons été touchés par une des planches du procès. On a tenté d'analyser certains aspects dont on aimerait vous faire part.
Mm-hmm.
Aussi, on avait bien envie de se poser une question. Comment avez-vous réussi à transmettre ces émotions avec autant de réalisme ?
Comment j'ai fait ? Eh ben, d'abord, entre le moment où j'ai suivi ce procès, il s'est passé une bonne trentaine d'années avant que je replonge là-dedans. Et en se replongeant là-dedans, je ne pouvais pas me contenter d'utiliser les dessins du procès que j'avais fait. Il fallait qu'on construise une histoire, il y a tout un cheminement particulier quand on écrit une bande dessinée, quand on fait une bande dessinée, que ce soit à la fois au niveau du texte et au niveau du dessin. Et donc il a fallu que je me replonge dans tout ça. Et donc je me suis servi de la documentation, enfin grâce à ces DVD qui existent maintenant et qui sont visibles et achetables sur Internet, du procès Barbie. Et donc en se replongeant là-dedans, on revoit, on réentend à la fois les témoignages des gens qui sont à l'arrivée à la barre. Et donc là, les deux pages en question dont vous parlez, c'est le témoignage de Lise Lesèvre et le témoignage de Simone Lagrange, Kadosh Lagrange, Simone Kadosh, c'est son nom de famille. Elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelait Lagrange, donc quand elle a été entendue, elle s'appelait Simone Lagrange. Et c'était des témoignages particulièrement bouleversants. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Lise Lesèvre était une personne, une résistante, et que pour faire parler Lise Le Sèvre, Barbie avait utilisé cette méthode d'arrêter à la fois le fils et le mari, et de les torturer avant de les de fusiller le fils et de déporter le père. Simone Lagrange, elle, elle avait 13 ans quand elle est passée, quand elle a été arrêtée d'abord, elle avait 13 ans, elle a été arrêtée le 6 juin 1944. 6 juin 1944, c'est la date du débarquement des Alliés en France, en Normandie. Et donc, elle qui pensait que c'était un moment de libération, enfin arrivée, est passée par les mains de Barbie. Et parce que... Et parce qu'elle ne savait pas où se trouvaient son petit frère et sa petite sœur, Barbie l'a interrogée pendant plus de 7 jours et l'a torturée. Et puis après, ben voilà quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais est-ce que ça vous parle ce que j'ai dit là ou pas ?
Oui.
D'accord.
Nous aimerions développer trois points d'analyse. Tout d'abord, la question des émotions, puis la question du temps. Et enfin, on aimerait s'arrêter sur un petit détail qui nous a interpellés sur la vignette numéro 5.
De quelle page Là. Ah, là où on voit ma main. Là où on voit ma main, c'est ça? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir au juste là?
Après comparaison avec le procès que nous avions déjà visionné au CHRD, nous avons trouvé que les émotions des victimes étaient retranscrites dans vos dessins avec beaucoup de réalisme. Par exemple, la tristesse de Simone Cadoche ou encore l'aplomb de Madame Le Sèvre malgré la violence de ses propos.
D'accord.
L'alternance des couleurs nous a permis de nous interroger sur les différentes temporalités. Si notre analyse est juste, on a pu différencier les flashbacks à travers les vignettes en sépia et les moments du procès à travers des vignettes colorées. On suppose que l'utilisation du sépia symbolise ces moments sombres et cruels qu'on retrouve par exemple avec le four crématoire et le supplice de la baignoire.
Tout à fait.
Alors que l'utilisation des couleurs plus claires et plus douces, c'est pour le témoignage des vivants lors du procès.
Notre absolument.
Analyse était juste ?
Oui, absolument. Absolument bien vu. C'est exactement ça. C'est que j'ai voulu marquer par le changement de couleur, ce que vous dites, la temporalité, faire des retours en arrière, le flashback, sur tout ce qui s'est passé avant, l'interrogatoire des parents de Simone Cadoche par Klaus Barbie, et tout ce qui faisait référence à cette période était volontairement fait en sépia.
Enfin, notre attention s'est portée sur la vignette numéro 5, dans laquelle on assiste à la réalisation d'un croquis. Mais est-ce vraiment vos mains, Monsieur Bauer ?
Eh oui.
Vous avez présenté dans cette
oui.
un abîme.
Oui, ce sont mes mains. Et c'était aussi une volonté délibérée, de plutôt que de me montrer moi en train de dessiner, j'ai préféré mettre ma main. Et ça donnait un plus, un complément, et qui tentait à prouver que ben, j'avais bien assisté à ce procès. Voilà.
Pour conclure, cette planche semble réunir tous les éléments nécessaires pour témoigner de cette cruauté. Merci de nous avoir écoutés, Monsieur Bauer. Nous reprenons, Monsieur Bauer, si vous êtes d'accord.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. En tout cas, j'ai inauguré cette web radio et j'en suis très très flatté.
Combien de temps avez-vous mis pour créer cette BD ?
Alors, j'ai mis 3 ans pour réaliser... Ah oui, d'accord. J'ai réalisé cette bande dessinée en 3 années. Ça nous a demandé... En plus, c'est tombé au moment du Covid, donc on n'avait pas trop de liberté de déplacement et tout ça. Donc, ça m'a permis de me concentrer complètement à cette œuvre. 3 ans, c'est beaucoup de travail, mais il fallait que... j'avais le souci du détail, j'avais le souci de du réalisme et je voulais que ce soit presque parfait.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre de votre BD, La Route du Rat ?
Alors, pourquoi La Route du Rat ? Eh bien, La Route du Rat, c'est le chemin qu'empruntaient les nazis pour fuir l'Europe afin de pouvoir rejoindre l'Amérique du Sud et certains autres pays, mais en particulier l'Amérique du Sud. Et la route du rat, c'est le chemin qui partait d'Allemagne, qui passait par l'Autriche et qui descendait vers l'Italie, Gênes, où chacun des nazis prenait le bateau pour fuir l'Europe.
Pourquoi avoir choisi cette couverture pour cette BD ?
Pourquoi avoir choisi ? Bah parce que, alors, vous savez, quand on réalise une couverture, d'abord, quand on réalise une bande dessinée, on ne sait pas du tout quelle couverture on va faire. J'ai fait plusieurs essais, il y en a eu des plus ou moins. Au départ, j'avais voulu jouer sur le visage de Barbie, c'est-à-dire que j'avais fait une première moitié où on voyait Barbie nazie à l'époque de la guerre, et l'autre moitié de Barbie au procès. Et puis, ben, ça n'a pas retenu l'attention de l'éditeur, qui trouvait que c'était une bonne idée, certes, mais pas suffisamment. Et puis, un jour, j'ai trouvé qu'en fait, le visage de Barbie était un visage, je dirais pas sympathique, hein, hormis le costume, mais que c'était un visage, ma foi, d'un homme comme tous les autres hommes, vêtu de ce costume. C'est vrai qu'il a un plutôt beau visage quand on le regarde, mais avec un regard perçant et un peu narquois, et en enfilant ses gants, avec une espèce d'attitude, pardon ? J'ai pas compris. De préparation ? Non, c'est pas de préparation. Un peu arrogant. Hein, vous voyez, c'est un peu arrogant. Il arrive, il se présente, il enfile son gant et il vous regarde d'une façon assez désagréable quand même. Je trouvais que c'était fort quand même, ça. C'était fort. Et puis ça a beaucoup plu à l'éditeur. Donc j'ai rajouté l'image que l'on connaît, qui est l'image du convoi du 11 août. J'ai rajouté en ajoutant quelques éléments parce qu'il y a un problème de droit d'auteur par rapport à la photo et donc il fallait que je rajoute quelques personnages devant. Qui pouvait, mais cette image, elle est très connue. Hein. Et quand j'ai présenté ça à l'éditeur, il a tout de suite accepté. Il voulait absolument rajouter la croix gammée, qui, pour des raisons qui m'échappent, pour des raisons commerciales, j'aurais tendance à dire, apporte un plus et fait vendre un peu plus le bouquin. Ça peut paraître. Moi, je trouvais que c'était surfait que de toujours utiliser cette croix gammée. Et on le voit souvent dans des sujets à peu près identiques. Elle est récurrente, quoi, cette croix gammée. Et moi, je voulais carrément qu'elle disparaisse parce que je n'avais pas envie. Mais bon, la volonté de l'éditeur, c'est celle-là. Et on ne peut pas y revenir. Voilà.
Comment avez-vous recueilli les informations sur la traque en Bolivie ?
Alors, ben, j'en savais un petit peu quand même. Comme j'ai suivi le procès, j'avais entendu... Que Barbie avait aussi sévi en Bolivie. Et donc, on a eu besoin d'en savoir un peu plus. Et on est allé aux informations, on est allé chercher en lisant des ouvrages historiques sur la question. Et on a appris énormément de choses. Et c'était important de dévoiler tout ça. Et de constater qu'en fait, Barbie ne s'était pas contenté de faire du mal pendant la guerre, mais après la guerre aussi.
Pourquoi le livre est en participation avec l'INA ?
Alors, parce qu'en fait, au départ, il n'était pas question qu'il y ait une implication de l'INA. Mais en fait, il y a une partie qui est consacrée à une interview de Pierre Truche, qui était évidemment le procureur de l'époque, et qui fait référence à la notion de crime contre l'humanité. Et pour recueillir ces informations, il a fallu qu'on passe par l'Institut National de l'Audiovisuel, qui avait enregistré cette interview, et on avait besoin d'utiliser ça pour... Et donc les droits, l'éditeur a dû payer des droits d'auteur pour qu'on puisse utiliser cette interview. Et comme on l'a payé à l'INA, et ben, l'INA devenait de fait... collaborateur, enfin je sais pas comment on dit, partenaire plutôt.
Combien de BD avez-vous vendu et avez-vous vendu des exemplaires en dehors de la France ?
Alors, en tout et pour tout, je vais être très clair, fin décembre, donc on a un relevé de droits tous les 6 mois. Le premier relevé c'était fin juin, le dernier relevé c'était fin décembre. Et on a vendu énormément d'exemplaires. On en a vendu 7235, très précisément. Et après ça, donc on arrête les comptes. Hein. Fin décembre, on arrête les comptes. Mais ça veut dire que depuis fin décembre, on en a encore vendu d'autres. Et on en a vendu aux pays francophones, la Belgique, la Suisse et le Québec. Et l'ensemble des ventes correspond à la somme que je vous ai dit. Enfin, à la somme, au nombre que je vous ai indiqué tout à l'heure.
Envisagez-vous de réaliser d'autres BD sur d'autres procès ?
Alors, bon, il en a été question. C'est pas certain. On avait envisagé de faire la bande dessinée sur Jean-Marie Villemain, enfin l'affaire Villemain, l'affaire du petit Grégory. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Vous êtes un peu jeune, parce que c'est d'une histoire un peu ancienne. Mais j'ai eu le grand honneur d'assister à ce procès, enfin le procès de Jean-Marie Villemain qui avait tué le cousin. Et malheureusement, quand on a assisté à ce procès, qui a duré 7 semaines à Dijon, on a relaté un peu tous les faits de cette affaire, triste affaire. Et à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas qui a tué Grégory. Bon, bref. Et moi, ça me gênait beaucoup, parce que mon point de vue sur l'histoire était que Jean-Marie Villemain avait en effet tué son cousin. Mais on avait impliqué, il y avait tellement de gens impliqués là-dedans. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de souffrance. Ils avaient subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance à travers cette histoire et ce malheureux crime de perdre un enfant. C'est la pire des choses qui puisse arriver pour des parents. Ils ont été mis à mal. On leur a jamais demandé l'autorisation de quand ils ont fait des films sur TF1 par exemple, ou quand on a écrit des livres, on demande pas l'autorisation à Jean-Marie Villemain. Et moi j'ai dit, si Jean-Marie Villemain m'autorise à le faire, je le ferai. Et s'il me dit, je ne le ferai pas, ne le faites pas, je ne le ferai pas. Et donc j'ai écrit à Jean-Marie Villemain par le biais de son avocat et il m'a répondu qu'il ne souhaitait pas qu'on fasse une bande dessinée sur le sujet, ce que je respecte tout à fait et j'ai refusé de le faire.
Est-ce que votre métier de dessinateur vous a permis de gagner votre vie ?
Alors ça dépend quand. Je peux dire que j'ai bien gagné ma vie quand j'ai travaillé pour la télévision, quand j'étais le dessinateur de la chronique judiciaire. Maintenant, quand on fait des livres comme celui-là, sachez une chose, c'est que les auteurs sont pas... les dessinateurs, en règle générale, sont les plus mal payés et on touche très peu de droits d'auteur. Et sur la vente d'un bouquin, il faut savoir qu'un auteur touche environ à peu près entre 8 et 10%, ce qui n'est pas énorme. Si vous faites le fromage, là, vous coupez le prix du livre comme ça, sous cette forme. Ceux qui gagnent le plus d'argent sont les distributeurs, qui prennent eux tout seuls 50% du prix du bouquin, il faut le savoir. Et puis, les auteurs sont les plus mal payés. Et c'est eux qui apportent le projet, c'est eux qui apportent tout. L'éditeur, il a sa part normale et légitime, puisqu'il finance le projet. Donc c'est normal qu'il touche en retour une part plus importante, mais le distributeur, c'est pas toujours justifié. Voilà, et tant pis pour les distributeurs.
Et enfin, quel est votre avis sur cette guerre, les États et les criminels de l'époque ?
Mon avis ? Je crois que mon avis, bon nombre de personnes le partagent, c'est que cette époque était vraiment une époque particulière où des gens ont sévi vraiment atrocement et qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse recommencer. Et malheureusement, les choses se renouvellent en permanence et il suffit de voir ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Et je suis certain qu'au terme de cette guerre, on apprendra des choses absolument odieuses. Mais je pense que c'est le problème de la guerre en règle générale. Quand il y a une guerre, c'est terrible, quoi. Je veux dire, il se passe des choses absolument affreuses. Voilà. Et je pensais qu'après ce procès, il n'y aurait jamais plus ce genre d'événement. Malheureusement, c'est de l'utopie totale.
Merci d'avoir écouté Sur les traces de Jean-Claude Bauer, qui rencontrait aujourd'hui Jean-Claude Bauer.